Dieu, que l'appel que Dieu a fait à Moïse pour que celui-ci vienne le servir. Et en fait, Moïse était convaincu qu'après l'appel qu'il a reçu, il y aurait forcément des confrontations, ou plutôt avant les confrontations, il était au moins convaincu d'une chose, c'est qu'il y aurait des questions. Des questions. Et cependant, Dieu disposait de solutions à tous les problèmes de son serviteur Moïse. Qu'y a-t-il dans ta main ? Dieu n'emploie pas ce que nous n'avons pas, mais il utilise ce que nous avons. Il peut nous donner ce que nous n'avons pas, mais Dieu, et vous remarquerez dans les Écritures, souvent, il se servait des gens qui avaient certaines compétences, il s'en servait, et même par rapport au caractère, parfois, Dieu se sert de personnes avec leurs moyens financiers, leurs moyens, leurs connaissances professionnelles, leur tempérament, leur vécu, leurs origines. C'est un ensemble. Et Dieu se sert de cela. Alors, si vous voulez quelques exemples, on a l'apôtre Pierre, qui était un homme qui avait du tempérament et qui était... Il fallait un homme comme lui pour pouvoir dire au jour de la Pentecôte, alors que lui-même avait fui, avait renié le maître lorsque Jésus a été pris par avec le baiser de Judas et que Jésus a été pris dans le jardin de Gethsémané, il fallait un homme comme Pierre pour qu'il puisse avoir cet électrochoc dans sa vie pour pouvoir dire « Vous qui l'avez crucifié. Vous qui l'avez crucifié. » Un homme qui était entier, certes, mais un homme qui reconnaissait aussi ses failles, ses faiblesses, ses manquements, puisque cet homme, eh bien, sera le premier à se jeter de la barque pour pouvoir aller rencontrer Jésus qui était au bord du rivage. C'est l'apôtre Pierre qui, avant de revoir Jésus sur le bord du rivage, arrivera à rentrer le premier dans la grotte, dans le sépulcre, pardon. Voilà, et c'est l'apôtre Pierre qui dira dans la première et dans la seconde épître, « Moi, apôtre de Jésus-Christ », et après dira, « Moi, de mémoire, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ ». On voit, il y a ici bien un fait que l'apôtre Paul avançait. Donc Dieu, ça c'était juste un exemple, Dieu se sert eh bien, de notre profession, de nos capacités, de nos dons naturels, de nos possibilités matérielles, de nos connaissances bibliques, de notre formation. Et concernant le bâton de Moïse, à vue humaine, ce bâton que Moïse tenait à la main était tout à fait une chose vile et méprisable. Je rappelle que ce n'était qu'un bâton. Mais Dieu allait en faire un instrument puissant pour réduire à néant l'opposition de ses adversaires. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Amen. Dieu a choisi, non pas pour que nous puissions nous enorgueillir, mais simplement être des hommes et des femmes que Dieu a choisis pour glorifier son nom à travers ces personnes. Ce bâton donc a servi à Moïse. Lorsque Dieu ne se sert de ce bâton comme étant un symbole, ce bâton a servi à des choses tout à fait ordinaires. J'imagine Moïse avec son troupeau en train de pousser, parce que lui-même voulait passer, en train de se servir de son bâton pour pousser les ronces, les épines, quelque chose tout à fait ordinaire que pour chacun d'entre nous. Ce bâton a très certainement servi pour taper peut-être sur la bête qui voulait s'en prendre après une brebis. Ce bâton a servi à Moïse pour pouvoir s'appuyer, pour se relever. Ce bâton a servi pour bien d'autres choses, pour peut-être lever une pierre pour voir s'il n'y avait pas un serpent dessous avant de s'asseoir. Un bâton ordinaire. Qu'y a-t-il dans ta main Il répondit, un bâton. Il y a une chose, au chapitre 4 du verset 2, qu'y a-t-il dans ta main ? Il répondit, un bâton. En fait, c'est son bâton. Et parce que Dieu va venir intervenir dans sa vie, dans son existence, au chapitre 4, on va voir une évolution chez Moïse, puisqu'il dira au chapitre 4, verset 20, « Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. » Ce n'est plus son bâton. Et c'est le bâton de Dieu. C'est le même bâton. Il a accepté symboliquement que ce bâton devienne le bâton de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, il est écrit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Pas pour rester comme simplement en disant « Merci Seigneur, je suis sauvé », mais pour une mission. « Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Ce n'est pas le tout de porter du fruit, mais c'est que celui-ci demeure. Un entretien nous responsabilisant à entretenir le fruit que Dieu nous donne de porter. Et si Dieu dit clairement, eh bien, et à chacun d'entre nous, si nous sommes ici, ce n'est pas parce que, bien sûr, nous avons choisi, nous avons accepté, mais c'est parce qu'un jour, ça a été dit ce matin, il nous a prédestinés, il nous connaissait. Et peut-être que beaucoup d'entre nous, nous étions dans le mépris à l'égard de Dieu. Peut-être que Dieu, eh bien, dépassait notre entendement et puis nous ne voulions pas en entendre parler. Combien j'ai été déçu cette semaine ? Je suis passé à côté de quelque chose, je vous assure que... Je suis allé à un enterrement à Istres et puis sur le chemin du retour, j'apprends que j'ai perdu un oncle. Il allait faire 82 ans au mois de mai. Alors, avec ma femme, on essaie de voir, c'était à Rouen, à côté de Rouen, essayer de voir comment on allait faire, c'est à presque 400 km d'ici. Donc, on se décide, on y va. Crématorium, j'y ai ma cousine, si vous voulez. Je demande à la famille, je peux intervenir. La famille, il y en avait très peu. Ma famille, ils sont surtout en Normandie. Mais là, vraiment, il y avait plein de gens de connaissance. Il y en a un membre de la famille qui est venu me revoir en disant tu feras la lecture. Mon oncle était marinier, il aimait les bateaux. Donc, tu feras la lecture, les bateaux, je ne sais pas quoi. Écoute, tu diras à celui qui préside, il le fera, lui, la lecture. Pas voulu le faire. Mais alors, quel dommage ! Quel dommage ! À des moments particuliers, à des moments précis, alors que le cercueil est là, qu'on parle eh bien, de la mort et qu'on donne un tas de souvenirs avec des diapos qui passent, avec les diapos, c'est assez c'est révélateur par rapport à la vie des gens. Je me disais, c'est pas possible. Hein. Enfin, moi, je le connaissais, mais... Mais d'être passé à côté de ça. C'est pas parce que moi, je n'ai pas voulu. Je voulais. Mais on ne peut pas forcer les choses, et encore moins faire du forcing dans de telles conditions. Mais voyez-vous, ces gens, ils auraient pu entendre le message de l'Évangile simplement apporté. Des moments particuliers, des moments précis. Et pourtant, cet oncle... Et d'autres encore, ils ont eu le calendrier, ils ont eu la Bible. Alors peut-être que je le serai quand j'arriverai au haut. Et on espère que ceux à qui on donne des calendriers, à ceux à qui on apporte la parole, à ceux à qui eh bien, on rend témoignage, rencontreront et donneront leur Seigneur avant de mourir. Dans Philippiens 3:12 est écrit « J'ai été saisi par Christ ». J'ai été saisi par Christ. Ce n'est pas moi qui ai saisi Christ, mais c'est Christ qui m'a saisi. C'est en lien avec l'Évangile. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et après, nous faisons le pas. Dans Proverbe 23, verset 26, c'est écrit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » C'est comme une supplication, « Donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. » Je ne sais pas si votre bâton, le bâton sur lequel vous vous appuyez, le bâton de votre vie, avec lequel il vous semble tout à fait ordinaire, parce que c'est un bateau ordinaire qui vous sert pour tout et n'importe quoi, pour gérer votre vie. En fait, c'est votre vie, ce bâton. Est-ce qu'il vous appartient toujours, peuple de Dieu? Ou est-ce que nous faisons, je ne sais plus dans quel pays, l'un et l'autre, se font face, il y a une poutre au milieu, et puis il y a une barre, ils sont assis, ils mettent leurs pieds sur la poutre, et chacun prend le bâton. Et l'un et l'autre, ils tirent, et le premier qui lâche a perdu. Est-ce que nous en sommes là? C'est-à-dire, est-ce que Dieu tient le bâton et moi je tiens toujours le morceau du bâton? Ou est-ce que ce bâton ne m'appartient plus? Je dis, Seigneur, je veux que ce bâton t'appartienne. Mon fils, donne-moi ton cœur. Je suis convaincu qu'on peut être depuis des années converti, mais ne pas avoir tout saisi, ou plutôt, je dirais, avoir tout saisi, ou en grande partie avoir saisi les choses, mais sans avoir, eh bien, capitulé, disant, Seigneur, je veux toujours avoir cette prise sur ce bâton. Combien il est important, frères et sœurs, de parler comme Moïse. Qu'y a-t-il dans ta main? Je prends le bâton qui t'appartient. Voilà que, alors que Moïse a cette révélation, cet appel pour le servir, Moïse va avoir ce doute qui va s'imprégner en lui et combien le doute est persévérant. Parfois, nous pouvons avoir une parole de Dieu qui soit percutante, qui nous bouleverse, qui nous émeut au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de nos entrailles, sans pouvoir exprimer ce que nous ressentons, parce que c'est à nous que Dieu a donné cette parole précise, comme une flèche qui rentre dans notre vie, non pas pour nous atteindre, pour nous tuer, mais cette flèche qui est comme un curseur, cette flèche qu'il a, qui marque notre existence. Et on part, on est heureux. Il dit, qui suis-je pour que tu puisses faire ceci ou cela dans ma vie ? Et le temps passant, quelquefois il peut y avoir le doute, et puis parfois on peut s'arrêter en se disant, mais en fait, qui suis-je pour que Dieu fasse ces choses en moi? Dans Exode 4:1, il est écrit, « Ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point, ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Ils vont douter. Il faut parfois bien du temps pour comprendre que ce que Dieu nous dit, il nous rendra capables de vivre ce qu'il nous dit. Et que ce n'est pas sur nos propres capacités, je le répète, ce n'est pas sur mon moi, ce n'est pas avec ma propre nature, pécheresse, ce n'est pas avec mon tempérament que Dieu fera les choses, mais c'est lui qui me donnera d'être capable de vivre ce que Dieu me dit de vivre. Qu'y a-t-il dans ta main? C'est comme si Dieu lui disait, ta vie, tes capacités, tes désirs, en fait, ta propre volonté, c'est comme ce bâton que tu tiens à la main, jette-le par terre. Et celui-ci se transforma en serpent. Mon frère, ma sœur, cette explication, cette image que Dieu donne à Moïse, c'est pour nous aussi. Nous pouvons rester avec ce bâton et l'appeler notre bâton. Mais si nous ne lâchons pas ce bâton pour le laisser la priorité à Dieu seul, un jour il nous échappera. Parce que parfois, nous pouvons en effet nous appuyer sur nos propres désirs, sur notre propre volonté, sur nos capacités, sur notre... ce qui attire notre cœur. Mais s'il nous échappe, il s'échappera et fera de lui comme un serpent pour mieux nous mordre. Mais saisis-le par la queue et il deviendra dans ta main cet outil indispensable à la marche dans ta vie. Trop de chrétiens sont en difficulté. Trop de chrétiens, eh bien, n'ont pas tout saisi ou n'ont pas tout accepté parce qu'ils ne veulent pas que ce bâton appartienne à Dieu. Mes amis, il est important de dire, Seigneur, je veux te laisser mon bâton. Trop de choses se vivent encore. Trop de choses qui devraient être réglées dans nos vies se vivent encore. Si tu laisses échapper au contrôle de Dieu en constatant sa volonté, en contestant sa volonté pour ta vie, il va se dégénérer au point de manifester les ruses, non du serpent, mais de Satan lui-même. Nous avons tous l'expérience ici de frères, de sœurs qui ont donné un jour leur cœur à Dieu. Et nous sommes au regret, dans la tristesse, de voir qu'ils ne sont plus parmi nous, ici et ailleurs. Et pourquoi ? Nous ne portons pas, nous ne voulons surtout pas porter un jugement. Parce que combien ont lâché ce bâton, disant, Seigneur, je veux te le donner. Et en fait, ils l'ont repris. Si nous acceptons, frères et sœurs, eh bien, de laisser ce bâton entre les mains de Dieu, ça sera le symbole de la vocation que Dieu a donnée à Moïse. Ce bâton, lorsque Pharaon voyait ce bâton, il savait que ce bâton, eh bien, n'était qu'un bâton et que derrière ce bâton, il y avait un symbole, l'autorité, la puissance de Dieu. Lorsque Moïse levait le bâton, ce n'est que quand Moïse levait le bâton qu'il se passait un miracle. C'était l'autorité de Dieu. Pharaon savait que derrière cet homme, derrière Moïse, eh bien, il y avait l'autorité de Dieu dans sa vie. Et ce bâton était la preuve, le symbole. Parce que l'homme a besoin d'avoir une image parfois pour comprendre les choses. Pas une image de Dieu. Pas une image de Dieu. Ça me permet de dire certaines choses. Mes frères et sœurs, combien même vous aimez le Seigneur, je vous invite, à ne plus avoir de représentation, de sainte représentation chez vous. Que ce soit en image, que ce soit en icône, que ce soit en statuette, il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage même sur son téléphone. Quand j'envoie un message d'un texte biblique et je veux appuyer ce texte biblique en mettant une image de Jésus, vous êtes à côté de la plaque. La parole nous enseigne que nous n'avons pas à avoir de représentation. Et combien même vous êtes au clair par rapport à ces choses ? Ce que vous envoyez à ces personnes, vous ne savez pas comment elles réagiront. Je suis en combat avec une brave sœur, pas en combat contre elle. Mais je fais en sorte de lui rendre régulièrement visite pour qu'elle puisse être amarrée à sa foi jusqu'à la fin de son départ. Et ne pensez pas que les tentations sont réservées simplement à la jeunesse. D'autres tentations ne sont pas réservées, mais enfin sont vécues par les plus anciens parmi nous. Quand cette brave sœur me dit, mais quand j'étais petite, j'ai appris à prier la Vierge Marie, et je sais ce qu'elle m'a dit en amont, je vous assure, je dis, n'allez pas à la messe. Et je sais que si elle ne va pas à la messe, ce n'est pas parce que c'est une conviction personnelle, C'est tout simplement parce que c'est Stéphane qui lui dit « n'allez pas à la messe ». Et je voudrais, très personnellement, que ça soit plus parce que c'est Stéphane qui lui dit, mais qu'il y ait cette conviction en disant « je ne veux plus, je ne veux pas ». Il y a des gens qui sont fragiles, sur lesquels nous devons veiller. Et lorsque vous envoyez, par exemple, un verset biblique avec une image de... vous savez comment vous êtes, au clair. Mais encore une fois, je me répète, vous ne savez pas comment l'autre va l'interpréter. C'est un danger. Ça peut vous paraître basique, banal, ce que je vous dis. Mais je suis ancien de cette religion. Je sais ce que ça peut représenter derrière, en partie. Je vous invite à ne plus le faire, à faire le ménage, frères et sœurs. Un jour, je suis allé dans une brave sœur. Puis cette brave sœur m'a dit, tiens, va... dans une autre pièce, je ne sais plus pourquoi faire. Alors je vais dans cette pièce, et je me tourne. Ah ! Et la Vierge aussi, et machin, cela. Mais je dis, qu'est-ce que c'est ça ? C'était à mon mari. Comme c'était à son mari, elle avait du mal à s'en séparer. Elle a entendu ce qu'elle devait entendre. Mais voyez-vous, frères et sœurs, je parle de ça, mais je peux parler d'autre chose. Je n'avais pas prévu de vous le dire. Il y a des choses sur lesquelles on s'attache, qui sont en fait des pièges. Ce sont des pièges. Et ce n'est même pas forcément des objets. Ça peut être aussi parfois des paroles qu'on a pu nous dire. Des choses qu'on a pu nous faire. Je reparle d'un oncle, le frère de celui qui est mort. Dans la famille, ce n'est pas détendre. C'est des mariniers pour la plupart, mais je peux vous assurer que au niveau tempérament, c'est pas du plomb, c'est plutôt de la fonte. Et alors avec cet oncle-là, je l'appelle et il sait que je suis pasteur. Enfin, ils le savent. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'avait dit un jour, il me dit, je suis fier, parce que je vous assure que ce n'est pas détendre. Et il m'a dit un jour, je suis fier de savoir que j'ai un neveu qui est pasteur. Venant de sa bouche, ça vaut, je vous assure que ça vaut quelque chose. Hein. Parce que vous ne connaissez pas la famille, mais je vous assure. Et voyez-vous, j'ai pu parler avec lui, justement, parce que c'est avec cet oncle qui a l'air de perdre un peu la tête aussi. Et il m'a dit en fait que de Dieu, il ne voulait pas en entendre parler, parce que lorsqu'il était petit, il devait aller se faire, faire la communion, je ne sais pas quoi. Et puis la veille, il s'était rasé la tête par rébellion, et sa mère lui avait mis une... Ma grand-mère que j'aimais beaucoup, elle l'a attrapé... Et c'est sa tante qui avait arrêté parce que la grand-mère n'en pouvait plus avec lui. Oui, mais ça paraît tout à fait basique, banal. Ben ça, c'est la marque à tout jamais. Pour aller à l'église, comme il ne voulait pas, il s'était rasé la tête, il s'était pris une tannée, mais alors une tannée, pas la paire de gifles. Hein. Oui, ça paraît rien. Mais à cause de petites choses comme ça, cumulées les unes derrière les autres, font que des gens s'éloigne de Dieu. Nous sommes responsables. Qu'as-tu dans ta main ? Mon tempérament, mon caractère, mes désirs, ma propre volonté. Et vous savez, je suis comme ça et je ne changerai pas. Parce que c'est comme ça que je suis né, j'ai eu cette éducation-là. C'est ma culture, ce sont mes origines. Qu'as-tu dans ta main ? Ce que tu as dans ta main, si tu ne le lâches pas, ce quelque chose, ce bâton, se transformera en serpent qui se retournera contre toi et te perdra. Mes frères et sœurs, il est important de dire à Dieu, ce bâton que j'ai dans la main, c'est à toi que je veux le donner. Je veux que tu sois au centre de ma vie. Je veux que tu sois, eh bien, ma priorité dans ma vie. Laissez Dieu agir dans votre cœur, dans votre vie, et il fera de ce bâton ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Dieu a un plan, une volonté pour vous, non pas pour nous enorgueillir, non pas pour faire de nous des gens qui ne sortiraient je ne sais où, des gens qui seraient perchés je ne sais où, mais Dieu veut se servir de chacun d'entre nous, pour tous ceux et toutes celles qui se perdent autour de nous, pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile, pour vos propres enfants en premier lieu, pour vos parents en second lieu, pour tous ceux qui sont de votre famille, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent au travail, chez ArcelorMittal, et je ne sais où encore, chez les Docker et partout ailleurs encore. Parlez-leur de l'Évangile, ou plutôt vivez l'Évangile, pour qu'ils puissent se dire, ce gars-là, il a laissé son bâton se faire attraper, non pas par lui-même, mais il a accepté que ce bâton soit attrapé par Dieu. Et puis, un autre symbole dans Exode 4, verset 6, l'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Mets ta main sur ta poitrine, pardon. Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Ah, notre cœur, le cœur de l'homme. Combien que le cœur de l'homme, eh bien, est inspiré, non pas de Dieu. Mais combien sa nature pécheresse le conduit à tomber dans le péché. Et Dieu lui dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis il en retira, et voici qu'elle était devenue normale. Cette main couverte de lèpre sortie du sein de Moïse, c'est l'exacte expression de ce que produit la nature pécheresse quand Dieu ne l'inspire pas. Ou quand Dieu ne l'inspire plus. Notre cœur doit appartenir à Dieu et à Dieu seul. Dire à Dieu, Seigneur, je veux, non pas avoir l'attitude, je ne veux pas simplement avoir l'image, le symbole d'être un chrétien, d'être un homme, d'être une femme engagée. Mes frères et sœurs, plus aujourd'hui qu'hier, il est temps de mettre de l'ordre dans sa vie. Voyez que ici et là, on voit apparaître, il y a des paroles qui sont dites par nous gouvernants et des paroles qui sont fortes. Jamais, vous entendez, jamais, on aurait pensé. C'était la der des der, 14-18. La der des der. En décembre, on revient. Vous ne cassez pas la tête, la famille. On fera Noël ensemble. Et on part avec la fleur au fusil, au canon. Et hop, les Allemands veulent les repousser, puis ça va être... Hop, hop, walou. 4 ans. Mais comme on n'a pas appris les leçons, 20 ans plus tard, ça a recommencé. Il n'y avait pas assez de morts. Il n'y avait pas assez de gens qui avaient les stigmates sur leur visage. J'ose pas le dire ici, j'emploierais le terme si j'étais chez moi, mais ici je ne le dirais pas. Tous ceux qui avaient le visage déformé parce qu'ils avaient pris un éclat d'obus ou une balle, on les appelait d'une certaine façon. Parce qu'ils passaient dans les rues, on les voyait, on les remarquait. 20 ans plus tard, on dit, on va recommencer les gars. Mais là, attention, c'est la guerre propre. Alors, plus les tranchées, oh, ben non, là c'est... On y va proprement. Et pum, pum, pum. Et on appuie sur les boutons. Ni vu ni connu. Je ne sais pas combien il y a eu de morts. Je ne sais même pas si c'est moi qui les ai tués. On est en 2024. On nous parle de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas des paroles en l'air, frères et sœurs. L'immoralité va de pire en pire. Les enfants s'entretuent entre eux. Les enfants, 15 ans. Ça sort des couches. Il y a encore 5 ans, ils jouaient avec les petites voitures. Il y a encore 5 ans, on était admiratif de voir ce petit gamin en train de jouer sur son vélo, là. Il faisait des cabanes dans les bois. Il jouait à Tarzan, enfin, peu importe. Les petites filles jouaient à la Barbie encore. 5 ans avant, peut-être même encore la veille. Les enfants s'entretuent, ça ne se voyait pas avant. Et l'autre sur sa trottinette, le violeur à trottinette. Et puis quoi encore? Le monde part dans sa déchéance. On en parle même dans les églises. Le monde est entré dans l'église. Là-bas, dans le bureau. Un jour, quelqu'un pleurait, enfin pas pleurait, mais sa façon de parler. Vous savez, un jour ou l'autre, tout se sait. Et après, tu vas au bureau, tu me parles, et après, tu me dis pas que tu vas en boîte de nuit. Et en fait, il faut... C'est ce que ça représente, quand même. Alors, ça peut paraître basique, ça peut paraître banal, ça. Mais non. Ça peut paraître banal, ça peut paraître basique, ces choses. Mais il y a tous des symboles derrière. Il nous faut être des hommes et des femmes convaincus. Des hommes et des femmes ancrés, enracinés. Et qu'en est-il de nous aujourd'hui avec ce bâton, frères et sœurs? Et je termine, c'est ma conclusion. Qu'y a-t-il dans ta main? Ma misère, mes frustrations, mes réussites, ce dont je suis fier. Il y a des choses pour lesquelles on est content. Il y a ma propre volonté. Il y a parfois ma rébellion, mes incompréhensions. Il y a parfois mon non-acceptation de ce que Dieu voudrait pour moi. Alors jette-le par terre. Maintenant attrape-le par la queue, le serpent. Voilà ce qu'il sera. Et tu ne le lâches pas. Et ce serpent s'est transformé en bâton. Voilà ce que je vais faire dans ta vie. Tu seras, pourras t'appuyer sur moi. Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Tu t'appuieras sur moi et voilà ce que je ferai. Vous remarquerez que la vie de Moïse n'a pas été simple ni facile, hein, même avoir accepté de prendre le bâton de Dieu. Il a eu les plus grandes difficultés. Il aurait pu rester simple berger, s'occuper du troupeau de beau-papa, de Jéthro, et faire sa petite vie tranquille. Sauf qu'il a accepté. Si vous acceptez de prendre le bâton de Dieu et de dire, ce bâton, ma vie, je ne veux plus que ce soit mon bâton à moi, mais je te donne mon bâton, il y aura des conséquences. Soyez-en sûrs. Parfois des persécutions, parfois des choses difficiles à vivre. Parfois même des moments où vous serez seul, très seul. Des moments de solitude. Mais celui qui vous a choisi un jour fera son œuvre en vous. Il se servira de vous pour sa gloire. Vous savez ce qui réjouit mon cœur? Ce n'est pas ce que j'entends ici-bas. Hein. Parce que si on n'avait pas Dieu dans sa vie, très honnêtement, il y aurait de quoi se faire du souci, de s'inquiéter. Ce qui réjouit mon cœur, c'est de savoir qu'un jour, lorsque je vais faire comme tous les copains, si le Seigneur tarde à venir, on viendra peut-être à mes obsèques ou pas, ce ne sera pas le souci, je ne serai pas là pour m'en rendre compte, mais c'est de savoir que lorsque j'arriverai au ciel, je verrai celui qui m'a appelé un jour à marcher dans ses voies, je verrai tous ceux qui m'ont précédé. Et ça sera le plus grand, le plus beau des moments. Et de louer à tout jamais, éternellement, le Seigneur. L'espérance n'est pas ici-bas, mais l'espérance est en celui à qui nous avons donné notre cœur, notre bâton. Alors que le Seigneur nous bénisse ensemble. On termine par la prière. Est-ce que quelqu'un veut bien terminer?